C-L-I-D.
En anglais, on dirait Understanding the Dark Side of the Universe.
Understanding the Dark Side of the Universe.
Euclide.
C'est une aventure humaine qui est unique, hein. Il n'y a pas d'équivalent ailleurs dans le monde. Ouais, il y a l'excitation de la découverte et puis d'amener sa contribution à toute une aventure humaine.
Euclide.
Quelque chose qui interpelle, quoi.
Mission Euclide.
Le métier à tisser l'univers.
À ce jour, nous connaissons seulement 5% de la matière qu'il compose. Et selon les hypothèses actuelles des scientifiques, les 95% inconnus seraient constitués de matière noire et d'énergie sombre dont on ne connaît pas les vraies natures. C'est pourtant cette énergie sombre qui expliquerait l'accélération de l'expansion de l'univers, découverte en 1998. Et si on cherchait à en savoir plus ? L'Agence spatiale européenne a lancé une mission pour tenter de découvrir l'invisible, la mission Euclide. Euclide, c'est deux instruments ultra-performants, dont la plus grande caméra infrarouge jamais lancée dans l'espace, qui donnera des mesures d'une précision inégalée à ce jour, montée et testée ici, au laboratoire d'astrophysique de Marseille. Euclide, c'est la coopération de plus de 220 laboratoires, dans 16 pays, pour plus de 6 ans de mission du satellite dans l'espace, et plus de 170 millions de gigaoctets de données à traiter. Euclide, c'est ici, et c'est là-bas. Décollage en 2022.
Christian Suras, donc je suis le responsable du Centre de données astrophysique de Marseille et au sein du laboratoire d'astrophysique de Marseille. Et en tant que, dans le projet Euclide, je suis responsable des activités du laboratoire au niveau du segment sol et responsable de ce qu'on appelle l'Organization Unit SPE.
Alors, je m'appelle Smaïn Kermich, je suis ingénieur de recherche, expert en calcul scientifique. Je fais partie d'Aix-Marseille Université, du CNRS et plus précisément de l'Institut de physique nucléaire et physique des particules, on appelle IN2P3. J'utiliserai peut-être cet acronyme par la suite. Et je suis responsable, justement chef de projet au niveau des activités Euclide, au niveau du laboratoire, sur tout ce qui est traitement de données et simulation. Voilà.
Christian, comment pourriez-vous définir vos implications dans ce projet Euclide ?
Alors, dans le projet Euclide, déjà, le segment sol, c'est la partie qui arrive à la fin du projet, c'est-à-dire après que l'instrument soit envoyé dans l'espace, que tout a été préparé, testé, les données vont arriver et vont être analysées par le segment sol. Donc mon rôle au sein du segment sol et au niveau du laboratoire, c'est d'organiser les activités du laboratoire autour du traitement de données, des données que l'on va recevoir d'Euclide. Et principalement, pour mon cas, c'est les données spectroscopiques qu'on va récupérer et que l'on va analyser. Alors il y a une partie de ces données spectroscopiques qui vont être traitées par les Italiens et ensuite qui seront données au laboratoire, enfin qui seront présentées au laboratoire et nous avons la responsabilité d'extraire de l'information astrophysique de ces données-là. C'est à partir d'un spectre, donc les données spectrales sont des données, je ne sais pas si vous avez dû l'avoir dans les précédentes émissions, on extrait de ces données l'information qui concerne les raies d'émission. Les raies d'émission, les objets vont émettre du flux ultraviolet qui va ioniser un gaz et ce gaz va émettre des raies d'émission. Et ces raies d'émission, nous allons les récupérer et les analyser afin de déterminer le redshift, c'est-à-dire la vitesse de l'objet, donc la position de l'objet dans l'espace, et toutes ses caractéristiques spectroscopiques, c'est-à-dire de savoir si c'est une galaxie qui forme beaucoup d'étoiles, si c'est une galaxie qui est plutôt tranquille et presque morte, ou si c'est un AGN, c'est-à-dire quelque chose avec un trou noir à l'intérieur. Pour la partie complète, le but, ça va être quand même d'extraire les positions des galaxies, d'avoir une carte en trois dimensions du ciel et de pouvoir, avec cette carte en trois dimensions des positions de galaxies, extraire la position et la nature de la matière noire et de l'énergie noire. Donc ça, c'est le grand thème d'Euclide, le grand thème de la mission Euclide. Nous, on va apporter notre pierre à l'édifice en mappant, donc en faisant une cartographie complète des objets dans l'univers. Donc ça va permettre en fait d'aller récupérer toutes les positions des galaxies. Alors on aura, et ça peut-être Smine pourra rajouter, on aura une vision qui sera un peu plus visible avec l'instrument visible et proche infrarouge qui va nous permettre d'aller beaucoup plus loin. En fait, le proche infrarouge va nous permettre d'aller regarder des objets qui sont beaucoup plus lointains. Et avec ça, on cartographie l'univers et avec cette cartographie, on déduit des constantes de l'univers qui sont spécifiques à tout modèle de l'univers.
En ce qui concerne nos implications, alors le segment sol, justement, parce que quand on dit segment sol, c'est en contrepartie un segment espace. Donc le traitement de données d'Euclide se fait à deux niveaux. Il y a le traitement de données au niveau du satellite lui-même, du télescope. Puis après, les données sont transférées sur Terre grâce à deux antennes qui sont localisées en Terre. Et ces données-là vont suivre ce qu'on appelle des traitements dans le segment sol général. Mais ce segment sol a deux parties. Une partie qui est gérée par l'ESA, l'Agence spatiale européenne, et une partie gérée par le consortium. Et donc généralement, quand Christian parle du segment sol ou quand moi je parle du segment sol, on parle plutôt de la partie qui est gérée par le consortium Euclide. Et donc la partie qui est gérée par l'ESA, c'est ce qu'on appelle le Mission Operating Center et le Scientific Operating Centers. Et ça, c'est deux centres qui sont l'un à Darmstadt, si je ne me trompe pas, et l'autre à Madrid. Et donc, ça sert à recevoir les données du satellite, préparer les données. Et justement, le Scientific Operating Center, le SOC, c'est la partie qui, entre guillemets, qui parle au segment sol, partie consortium. Donc voilà, à partir de là, on commence le traitement des données brutes qui nous sont distribuées. Et on passe par différents niveaux de traitement de données. Donc Christian se situe dans la partie traitement de la spectroscopie, qu'il a très bien décrit. En fait, nous, on se situe dans une position beaucoup plus en amont, parce que pour que le traitement de données soit fait, soit préparé bien avant le lancement du satellite, il faut des données à traiter. Et ces données-là sont ce qu'on appelle les simulations. C'est-à-dire, on prépare des données équivalentes aux données réelles qui servent à la structuration, à la construction et au développement des différents niveaux d'analyse jusqu'au dernier niveau d'analyse qui sort des catalogues analysés par les physiciens.
Comment vous arrivez à établir ces simulations, justement ?
Justement. Alors, nous, ici à Marseille, on est comme Christian a dit OU, donc on a beaucoup de sigles, beaucoup d'acronymes au niveau Euclide. Donc OU, c'est Organizational Unit. Donc Christian, c'est OU-SP, donc spectroscopie. Nous, on est positionné au niveau de OU-SIM, qui fait des simulations. Et plus précisément au CPPM, on développe des codes de simulation de la caméra infrarouge NISP, qui est l'un des objets de cette émission. Puisque Marseille est le centre de fabrication, de responsabilité et aussi de livraison de cet instrument. Et nous, au CPPM, on développe les simulations de la partie infrarouge du NISP. Et donc notre responsabilité, c'est de développer le code de simulation à livrer au consortium pour les développements des différents, ce qu'on appelle pipeline. Et on a aussi des développements de code de validation des images de spectroscopie. Et on a aussi une responsabilité au niveau du centre de traitement de données français. En fait, on dit SDC, Science Data Center. Donc, chaque pays a son centre de traitement de données. Le SDC français, c'est le CCIN2P3, le centre de calcul de l'IN2P3, qui est une unité de service du CNRS. Dans ce centre-là, on a une responsabilité de coordonner les simulations, leur production et leur distribution au niveau du consortium. Là, on prépare, voilà, on a des codes de simulation. Nous, au CPPM, on développe la partie spectroscopique. On a nos collègues en Allemagne qui développent la partie photométrique. On a aussi nos collègues à Paris qui développent la partie visible. Et donc après, il y a des centres de développement des simulations dans le centre de calcul de l'INDP3. On produit les simulations, on les distribue au consortium et les différentes organisational units, justement, traitent ces données pour les livrer aux scientifiques des catalogues pour préparer les analyses de données.
Globalement, ce que disait Smain avec beaucoup, enfin tous les sigles, c'est qu'ils organisent tout ce qui est simulation et qu'ils distribuent pour tester et les modèles d'univers et comment on va extraire les données et de voir si on arrive au résultat auquel on doit arriver quand ils se rendent. Et c'est, alors là il ne l'a pas dit, mais c'est super important. Les simulations sont très 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 importantes pour nous pour préparer, une fois que le satellite est en vol, chaque seconde compte. Et donc comme chaque seconde compte, il faut être très très bien préparé pour pouvoir les analyser beaucoup plus rapidement.
Les simulations qu'on fait ont principalement trois buts qui sont complémentaires. Le premier, justement, ça nous sert, nous, de comprendre de modéliser l'instrument, modéliser les comportements des détecteurs, de l'instrument et tout ça pour préparer qu'on rentre bien dans les spécifications scientifiques qu'on veut avoir. Ça, d'une part. Et d'autre part, quand je dis on a modélisé le ciel, donc on a fait entrer dans le simulateur une certaine image du ciel, modéliser, ça veut dire utiliser une certaine théorie. Donc ça veut dire que si le but du jeu, c'est qu'à la fin, une fois qu'on a les données, on compare les données avec ce qu'on a comme simulation pour voir, je suis peut-être très loin de ce que j'avais prévu, ouais. Je suis plutôt proche. Donc et après, on revient à ce qu'on appelle l'étude des systématiques dans la physique, c'est-à-dire... S'il y a une différence, d'où elle vient ? Est-ce qu'elle vient, mon modèle est faux ? Est-ce qu'elle vient du fait que j'ai mal comprimé détecteur ou mon instrument, comme le dit Christian, ou autre chose ? Et nous, les scientifiques, heureusement qu'on se pose toujours des questions. Et on n'arrête pas de se poser des questions, et c'est tant mieux, parce que c'est comme ça que l'humanité avance et la science avance.
Forcément, l'instrument, il fait partie d'un satellite qui va être dans une coiffe, qui va être envoyé dans l'espace, dans une fusée. Donc, l'instrument tel qu'il est actuellement, il va changer. Il va bouger, il va y avoir des distorsions, il va y avoir des choses particulières qui vont se passer sur l'instrument. Quand il sera dans l'espace et qu'il va observer, il va observer avec une manière qui va être différente de ce qu'il observait sur Terre. Donc, forcément, il y aura des choses qui arriveront. Ensuite, il y aura peut-être des impacts de rayons cosmiques qui sont plus importants. Il y a des choses qui viennent de l'extérieur de l'environnement du satellite qui vont impacter les images qu'on va avoir. Donc forcément, de ce point de vue-là, d'un point de vue technique et d'un point de vue environnemental, on va avoir des modifications et il va falloir adapter tout ce qu'on a fait, adapter nos calculs, adapter nos programmes pour prendre en compte ces nouvelles considérations. Donc ça, c'est d'un point de vue technique. Après, d'un point de vue scientifique, j'espère... qu'on trouvera des choses nouvelles parce que effectivement on va simuler, on simule quelque chose, on simule le ciel. Alors peut-être que ça va justement réduire un peu le champ des possibles des simulations et des théories ou voilà, ouvrir une nouvelle porte. Ça, je ne sais pas.
Moi, de mon expérience, je vous ai dit que j'ai passé deux tiers de ma vie professionnelle à faire de la physique des particules et je peux vous dire que quand on fait un projet en physique des particules, c'est des collisionneurs qui essayent de confronter un modèle. Généralement, nous, on travaillait sur le modèle standard qui a prédit le Higgs, la particule Higgs qui a été découverte il y a quelques années. Donc il y a des modèles de physique qu'on essaye de tester avec des données expérimentales. Donc on construit des méga expériences, ça met 10 ans, 15 ans avant de voir le jour, donc on commence les collisions et on commence à voir les données. Et c'est là où on se confronte avec la réalité. Et du point de vue surprise, moi qui ai fait plus que 20 ans en physique des particules, bien sûr qu'on a eu des surprises. Au niveau expérimental, instrumental, c'est-à-dire on se retrouve avec des résultats imprévus. Et du coup, c'est ce que je dis, je parle de systématique, on essaie de comprendre d'où ça vient, ce décalage. Et effectivement, comme on est un petit peu géniaux, donc il faut qu'on se... Il faut qu'on dise aussi fait d'excellentes choses et a des chercheurs et chercheuses de haut niveau. On arrive toujours à trouver. C'est vrai que des fois, c'est des choses instrumentales qu'on n'a jamais prévues. Donc du coup, il faut corriger. Et après, bien évidemment, le test de la théorie vient à la fin pour, une fois qu'on a éliminé toutes les systématiques dues à l'instrumentation ou à autre chose que ce qu'on veut tester comme modèle, on finit par la physique, c'est-à-dire, comme l'a dit Christian, on confronte les modélisations théoriques avec les données réelles, et si ça concorde, c'est bien et c'est pas bien, parce que c'est comme en physique des particules, on dit, maintenant on a testé le modèle standard, mais jusqu'au bout. La particule Higgs, on l'a trouvée, les différentes particules qui composent le modèle standard sont là. Des fois on se dit, qu'est-ce qu'il y a après? C'est le désert, il y a un autre modèle, on ne sait pas. Donc actuellement, si j'ai bien compris, je pense que Christian le dira beaucoup mieux que moi, on essaye de tester le modèle de la relativité générale avec surtout les parties énergie noire et matière noire. Après, si on trouve que ça concorde, ça veut dire que Einstein avait raison et que peut-être que les mesures vont conforter l'idée des 70% énergie noire, 25% matière noire. Mais je pense que le but principal de Euclid, c'est d'essayer de comprendre la nature de cette matière noire. Et pourquoi pas la nature de l'énergie noire aussi. Principal d'Euclide, c'est de faire 15 000 degrés carrés du ciel, ce qui est un tiers du ciel observable. Et comme l'a dit Christian, on scanne ces 15 000 degrés carrés degré par degré pendant 6 ans et demi. Il y a aussi, c'est en discussion, l'histoire des champs profonds, où cette fois-ci, non seulement on scanne d'une façon globale le ciel, mais aussi on scanne des parties bien précises. On y revient dessus régulièrement pour voir plus loin. Et ça permet de faire des sciences qui ont besoin de champs profonds et de faire les calibrations aussi des détecteurs et de l'instrument, parce que c'est important. Il faut que pendant ces 6 ans et demi à 7 ans, et les instruments et les détecteurs, soit qu'ils continuent à fonctionner comme avant, et je pense qu'avec l'âge, ça évolue. Donc ça veut dire les calibrations s'imposent. Et donc du coup, on aura besoin, d'une certaine quantité de sources fiables et sur lesquelles on revient régulièrement pour voir si l'observation de cette source a changé ou pas au niveau des instruments. Et si ça a changé, on sait très bien comment est la source d'origine. Donc c'est ce qu'on appelle la calibration des instruments.
Voilà. Aussi, c'est important pour pas, comme dit Smain, c'est vraiment important pour que les observations soient cohérentes les unes avec les autres. C'est-à-dire ça va durer quelques années, et pendant ces années-là, on doit pouvoir dire que tel objet a toujours la même intensité, est toujours le même. Donc, quand on l'observe plusieurs fois, avec ces variations, on peut recadrer en fait ces observations pour que toutes les observations qu'on fait soient cohérentes entre elles, ce qui est important pour tout ce qui est cosmologie, étude de la cosmologie.
Les données vont arriver du satellite. Je pense que malheureusement, la communication entre le satellite et la Terre, c'est pas 24/24. C'est 8 heures par jour, un truc comme ça, dû à la disponibilité des antennes versus le satellite. Du coup, je pense qu'on reçoit quelque chose comme 100 gigaoctets par jour de données compactifiées, brutes. qui seront traitées dans le sol. Et au niveau traitement de données, le traitement de données se fait au fur et à mesure. Donc le Scientific Operating Center va s'occuper de vérifier la qualité des données dès qu'elles arrivent et voir s'il y a un souci ou pas. S'il n'y a pas, il distribue au segment sol sur les différents SDC, Science Data Centers, qui vont traiter les données au fur et à mesure qu'ils arrivent. Il y a toute une organisation, une structuration de ce qu'on appelle la release des données, c'est-à-dire une fois que le consortium a traité les données, le but c'est de traiter 15 000 degrés carrés du ciel. Mais ces 15 000 degrés carrés, ils ne verront le jour que 6 ans et demi, 7 ans, jusqu'à la fin de la mission. Mais en attendant, le consortium livre au fur et à mesure 1000 degrés carrés, 1500 degrés carrés, 2000 degrés carrés, non seulement pour les productions scientifiques du consortium, parce que c'est important, c'est pour ça qu'on a cet instrument, et aussi il fait des releases publiques qui permettent aux scientifiques du monde entier de fouiller dans ces données et de trouver leur bonheur en fonction de leurs intérêts de recherche, des théories qu'ils veulent tester et d'autres expérimentateurs qui veulent tester des données qu'ils ont eues par ailleurs.
Chaque pays a une entité qui va récolter ces données-là et avoir un environnement pour traiter ces données, c'est-à-dire avoir du disque dur, avoir du stockage, avoir de la mémoire vive, avoir des CPU, c'est-à-dire des ordinateurs qui vont permettre de lancer tous les programmes qui vont analyser ces données-là. Donc en France, le centre de calcul de Lyon de l'IN2P3, c'est celui qui va gérer les données françaises de CLID. Il gère énormément d'autres données aussi, mais ce centre de calcul, il a été designé en partie pour gérer ces données-là. Donc il y a un centre de calcul, il y a des SDC, donc des Science Data Centers dans tous les pays. Il y en a en Espagne, il y en a en Netherlands, en Angleterre, il y en a aussi aux États-Unis.
En tout, il y en a une dizaine. Ouais. Il y en a une dizaine. Et justement, en parlant des dimensions, le segment sol et le traitement de données est tellement important au niveau Euclid que, pour vous donner une idée, 50% des ressources humaines d'Euclid sont dédiées au segment sol. Donc, ce qui veut dire que le traitement de données est très important. Donc il y a une dizaine de SDC si on inclut nos collègues américains. Au niveau de la quantité de données, moi je dirais des dizaines de millions. En incluant les simulations, en incluant aussi le retraitement des différentes données, je pense que ça peut aller facilement entre 200 et 300 millions de gigaoctets. Ce qui est énorme. Donc pour vous donner une idée, je sais pas, on peut faire une similitude, 100 millions de gigaoctets, si on prend un smartphone de 32 gigaoctets, ça représente quelque chose comme 3 millions de smartphones. Alors vous imaginez, vous pouvez les mettre là côte à côte ou les empiler pour voir la taille que ça va donner, c'est énorme. Donc le traitement de ces données-là, c'est un traitement de données distribué. Donc au niveau Euclid, on a décidé que le traitement de données soit distribué sur les différents SDC. Chaque SDC a ses spécificités. Donc par exemple, le SDC français, qui est le CCIN2P3, est le centre de traitement principal de la spectroscopie, des images du visible. Et on est co-responsable aussi de la production des simulations dans Euclid. Donc voilà. Il y a aussi les niveaux, le niveau supérieur qu'on appelle niveau LE3. Qui est le niveau ultime de traitement de données avant d'arriver aux catalogues qui sont analysés par les physiciens. Et ça aussi, c'est une des responsabilités du SDC français. Donc, ouais, ce qui vous donne une idée sur la taille de données qu'on a à traiter au niveau du SDC français.
Alors juste pour expliquer un peu ce que c'était le level 3. En fait, le segment sol scientifique et le traitement des données est composé en plusieurs niveaux. Le premier niveau, c'est un niveau qui a accès plus au détecteur lui-même, donc c'est VIS, NIR, NISP aussi, FACIR, c'est-à-dire des choses qui vont traiter les pixels eux-mêmes et qui vont extraire de l'information de ces pixels. Ensuite vient le niveau 2 qui va analyser les sorties de ces niveaux 1. Et donc il y a l'analyse des tailles des galaxies, l'analyse de l'élongation des galaxies, l'analyse des redshifts, etc. Et une fois que toutes ces données-là de niveau 1 sont transmises, sont analysées, on passe au niveau level 3, qui va, lui, récupérer toutes les données et essayer de sortir des constantes cosmologiques de ça. Donc voilà les trois niveaux de ce truc. Donc forcément, le premier niveau est très consommateur en disque dur puisqu'il récupère toutes les données. Le niveau 2, c'est plus de l'analyse, c'est plus du CPU, c'est-à-dire des ordinateurs. Et le niveau 3, en fait, il fait un peu les deux puisqu'il a besoin de toutes les données et d'avoir des processeurs, énormément de processeurs pour analyser tout le ciel dans son entier. Donc voilà, donc c'est un peu l'organisation comment est faite, qui est faite le grand segment scientifique en tout cas.
C'est un vrai challenge au niveau computing, au niveau calcul. On a besoin de stockage, on a besoin de beaucoup de processing et en plus, comme les données sont dispersées sur les 9 ou 10 SDC pour traiter les différentes parties de données de CLID, ben on a besoin aussi de réseaux assez performants pour s'échanger les données parce qu'il y a de la redondance dans les SDC, mais on a besoin quand même d'autoroutes de transfert de données qui sont importantes.
Quelles sont ces autoroutes de transfert de données ?
C'est des gros câbles, en fait, puisqu'il faut faire passer des gigas et des gigas de données. Et c'est pour ça, en fait, que Euclid a décidé de distribuer ces données-là. Parce que si on faisait tout en un seul endroit, dans un seul data center, déjà, il y aurait des difficultés pour processer ces données, c'est-à-dire pour traiter ces données, et ensuite pour transmettre ces données. C'est-à-dire qu'il y aurait tellement d'informations à transmettre que les canaux seraient tout de suite bouchés. Donc, c'est pour ça qu'il y a une organisation où on a réparti toutes les données à traiter dans les différents pays. Donc, comme ça, on gère beaucoup moins l'obstruction, enfin, le fait que les canaux et les transmissions soient limités.
Mais ceci dit, les réseaux qu'on utilise dans nos SDC sont des réseaux spéciaux quand même, parce que si je parle de la connexion au CCIN2P3, si je parle du CCIN2P3, qui est un centre de calcul pas uniquement d'Euclide, mais de la communauté physique des particules aussi, on a des connexions avec le CERN ou avec même ici à Marseille. Avant c'était du 10 gigabits, maintenant on a des connexions aux 100 gigabits. Hein. Les données sont tellement importantes que on a besoin de canaux spéciaux pour échanger ces données.
Ouais, donc c'est des canaux qui ont été construits exprès pour les centres scientifiques qui ne sont pas accessibles aux personnes de chez eux.
Vous pensez que les données récoltées par Euclid vont être actives dans la communauté scientifique?
Ce qu'il y a de bien dans l'astrophysique, c'est que toutes les données que l'on prend, même les premières données qui ont été observées par Messier, donc il y a quelques années, quelques centaines d'années même, elles sont utiles. Elles sont utiles par l'évolution, elles sont utiles par la référence, elles sont utiles par le fait qu'on voit un peu l'évolution avec les années de ces objets-là, même si l'âge de l'univers est très grand. Et cette évolution très courte, puisqu'on n'a qu'une centaine d'années, mais ce seront des références. Tous les anciens surveys sont des références et elles sont mises à disposition. Ces données sont mises à disposition et peuvent servir pour d'autres surveys ou d'autres sondages ou d'autres instruments pour aller observer peut-être des galaxies en priorité ou des objets qui sont spécifiques, qui seront spéciaux et d'aller donc de refaire une nouvelle référence de l'astrophysique.
Une partie des données que Euclid, au niveau segment sol, va traiter, c'est ce qu'on appelle les données sol. Et c'est des données d'observation de télescopes au sol qui sont nécessaires pour justement la calibration de certaines observations au niveau du ciel et tout ça. Et ces données sol viennent de différents observatoires, donc y compris des télescopes qui sont pas encore actifs actuellement. Ils démarreront à peu près en même temps que Euclid. C'est pour vous dire que une fois qu'on a des données scientifiques exploitables par une communauté scientifique, ces données-là étant mis à disposition dans ce qu'on appelle une méga archive qui contient les caractéristiques de ces données, seront analysées dès que possible par différentes communautés scientifiques et elles sont disponibles pour l'éternité. Hein. À chaque fois qu'on a un phénomène qu'on a compris ou qu'on essaye de comprendre pourquoi on n'a pas trouvé une réponse ou une énigme. On reviendra à ces données pour essayer de revoir est-ce que ces données-là contiennent certains biais qu'on est en train d'observer actuellement. Donc c'est, voilà, la science avance avec des boucles. Donc on avance, on comprend, puis après de temps en temps, ben, on se pose des questions philosophiques ou sérieuses, scientifiques, et on revient en arrière, on essaie de comprendre, et c'est comme ça qu'on avance.
L'astrophysique a quelque chose de particulier par rapport aux autres sciences, en tout cas, c'est qu'elle a su toujours garder ses données et mettre à disposition ses données, que ce soit d'un point de vue international ou d'un point de vue national même. Et donc on a cette connaissance et on a cette mémoire des données qui est présente et qui a toujours été présente, qui a été toujours l'un des symboles de l'astrophysique.
Comment vous l'expliquez ça ?
Ben, je ne sais pas, peut-être parce que d'abord les objets sont présents tout le temps depuis très très longtemps, donc on avait un besoin aussi de cartographier le ciel, ne serait-ce que pour les marins déjà, donc d'avoir cette cartographie, et puis plus on est allé, plus on a cartographié, puis identifié, puis caractérisé, et maintenant on essaye de comprendre l'univers et de comprendre d'où on vient, de comprendre toute cette partie-là, et donc forcément plus on a de connaissances, plus précise sera notre connaissance du futur. Là, il y a des gros défis. Enfin, les gros défis, c'est l'analyse automatique. Donc là, dans les données qu'on va avoir, on va avoir énormément de données, des dizaines, des centaines de milliers de données qui vont arriver, qu'il va falloir analyser de manière automatique. C'est-à-dire qu'avant, on avait l'habitude d'avoir un spectre, de regarder, d'analyser chaque spectre par une personne qui regardait un peu le spectre, qui définissait qu'est-ce que c'était comme caractéristique, etc., etc. Donc beaucoup de choses se faisaient à l'œil. Maintenant, on va avoir des milliers, des centaines de milliers d'objets qui vont arriver. Donc impossible à gérer. Donc là, il y a une grande incertitude sur comment on va gérer ces données-là, et comment on va les gérer et comment on va les analyser pour que ce soit de qualité et que ça puisse être utilisé. Donc là, toute la manière automatique, donc on parlait de machine learning et de deep learning aussi. Donc ça, c'est des nouvelles techniques qui arrivent et qui sont mises en place pour essayer d'analyser au mieux ces données. Donc il y a toute une analyse algorithmique pour analyser au mieux ces données et pour qualifier ces données-là. Donc ça, c'est l'automatisation, ça va être quelque chose de super beau à voir. Même si ça reste informatique, ça reste algorithmique, ça reste un truc, mais c'est quand même un défi qui est assez grand.
Oui, le défi, c'est vraiment la taille des données et le traitement des données et sortir des résultats avec ces données-là. Donc on est dans l'ère du big data, donc c'est du big data. Et en plus, c'est pour comparer, en physique des particules, on a aussi des données énormes, mais le traitement se fait d'une façon séquentielle. C'est événement par événement, collision par collision. Là, les analyses cosmologiques, c'est des analyses de corrélation, donc c'est des analyses qui ont besoin, pour traiter une partie du ciel, de toutes les données en même temps. Donc ça demande un traitement parallèle avec des mémoires, des CPU gigantesques et des mémoires gigantesques aussi. Donc d'où le machine learning, le deep learning, tout ce qui est automatisation pour aller plus loin dans le traitement de données, pour avoir les résultats avec des données énormes. Donc ça, c'est le grand défi de ces données, surtout que c'est la première fois qu'on a des données de cette taille-là à traiter.
Bon, merci beaucoup Christian, merci beaucoup Smaïl.
Merci, merci.
Merci à
c'était
vous.
C'était vraiment très sympathique.
Merci.
Thank you. Quand j'étais petit, je passais mes étés dans la Drôme et je m'allongeais dehors, je regardais la voûte céleste. Et ouais, j'avais une sensation de vertige. Tomber dans la voûte céleste. Petit.
On essaye de peser l'univers.
Le métier à tisser l'univers.
On est tout et rien dans l'univers. On est la chose la plus avancée que l'on connaisse de l'univers, dans quelque chose qui nous dépasse complètement.
Comme